Bonsoir à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. Ce soir, le G7, à quoi bon ? Encore un peu de littérature, si vous le voulez bien, pour mettre des images sur les petites et grandes vibrations de ce monde. Cette fois, c'est Simenon qui vient à la rescousse pour décrire ce à quoi peut ressembler un sommet de chefs d'État, comme celui qui se tiendra samedi à Biarritz. Dans le roman Le Président, un ancien président du Conseil se rappelle, ils se réunissaient périodiquement sur un continent ou l'autre, presque toujours dans une ville d'eau, nous y sommes. Il leur arrivait de se brouiller pour se raccommoder ensuite de façon spectaculaire, et souvent ce n'était qu'une comédie qu'ils s'amusaient à jouer. Combien de temps sont-ils supposés discuter avant de se mettre d'accord sur un communiqué demandé invariablement l'anglais ? Si seulement on avait la gentillesse de nous laisser un jeu de cartes, on pourrait faire un bridge. Certes, en 2019, Boris Johnson aura autre chose à faire, il a un Brexit à accomplir, et s'il devait se brouiller, les pays du G7 ne se raccommoderaient peut-être pas, confère le coup de sang de Donald Trump l'année dernière, qui au dernier moment retira sa signature du communiqué final. Mais à part une belle photo de famille et des accolades en globiche, à quoi sert cette grande messe des pays que l'on qualifie encore d'industrialisés ? Peut-être peut-elle encore s'afficher comme un directoire du monde alors que la Chine est en train de tout renverser ? Que peut produire le G7, mis à part un communiqué final pétri de bonnes intentions ? Et encore, cette année, il n'y aura pas de communiqué final. Alors, à quoi bon le G7 ? Trois invités pour en parler et pour en débattre. Bonsoir Christian Lequen.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à Sciences Po et spécialiste des questions de diplomatie. Vous êtes ici en studio avec Sébastien Jean. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Et puis nous sommes également avec Aurélie Trouvé, qui est économiste et porte-parole d'Attaque et d'Alternative G7. Bonsoir. Aurélie Trouvé, êtes-vous avec nous ? Non. Voilà, Aurélie Trouvé est en duplex de Bayonne grâce aux moyens techniques de France Bleu Pays Basque et nous allons la retrouver dans un instant. Alors, Christian Lequen, Sébastien Jean, c'est donc vers vous que je me dirige avant d'avoir quelques autres images du contre G7 auquel participe Aurélie Trouvé. Je citais Simenon en début d'émission, et alors on est dans une toute autre période, le roman Le Président date de 58, il parle d'une carrière de président du Conseil de la Troisième République, donc quand il y a sommet international entre cinq puissances, c'est plutôt pour parler de paix que d'économie, et de toute façon le G7 n'existait pas à l'époque, donc voilà, donc ça s'est plié. Mais dans ces images de Simenon, on voit les cinq dirigeants se balader dans des parcs, jouer à la pétanque, au bridge, et donc l'image un peu du multilatéralisme. Est-ce que le G7 va, en tout cas dans l'image, ressembler à ça ? Est-ce qu'encore aujourd'hui les dirigeants de ces sept puissances, quand ils se retrouvent, sont ensemble, voilà, ou est-ce que on favorise aujourd'hui les discussions bilatérales, Christian Lequen?
Non, c'est effectivement un exercice de socialisation au plus haut niveau, et c'est une caractéristique de la diplomatie qui est relativement récente. Elle se développe au 20e siècle. Dans les grandes conférences qu'on avait, par exemple, au 19e siècle, par exemple, la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique, on n'avait pas de représentants, de chefs d'État et de gouvernement. On avait des ambassadeurs. Mais le développement des communications et aussi la volonté de s'extraire un peu de l'expertise des entourages a fait que, à partir de la deuxième partie du 20e siècle, de la deuxième moitié, effectivement, ces réunions au sommet se sont développées. À l'origine, elles étaient très mal vues par les diplomates de carrière qui considéraient que cela venait court-circuiter leur travail de médiation. Aujourd'hui, je crois que c'est accepté, mais ça a déplacé, si vous voulez, la diplomatie des chancelleries, donc des ministères des Affaires étrangères, vers le niveau le plus élevé des gouvernements que sont les chefs d'État et de gouvernement et leurs entourages.
Alors, chefs d'État qui vont se retrouver tous les sept, Sébastien Jean, pour discuter pendant 3 jours à bâton rompu et débattre, ou est-ce qu'encore une fois on va favoriser, dans un monde où, et c'est notamment Donald Trump qui l'a décidé, qui l'a imposé, le monde se discute en rendez-vous à deux, en relation bilatérale, est-ce que ça va aussi ressembler à ça, à Biarritz, au G7?
C'est difficile, je pense, dans le contexte actuel, pour un une enceinte comme celle-ci, qui est une enceinte de concertation, non pas multilatérale, parce que là, il y a vraiment un très petit nombre de pays qui sont représentés, qui ne sont pas du tout représentatifs de la population mondiale, ni même aujourd'hui de la production de richesses mondiale.
C'est-à-dire, ils représentent combien aujourd'hui ces 7 pays-là?
Du PIB mondial, moins de 50%.
Oui, 45. Hein.
Veut dire vraiment, là, on est devenu, en fait, le G7 est devenu un club de démocratie avancée, de pays qui sont riches et démocratiques. C'est ça sa spécificité aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment de cette façon-là qu'il est... c'est autour de ça qu'il peut fonctionner. Mais c'est aussi une instance de concertation, de discussion collective. Et donc c'est très difficile de ne pas être dénaturé par quelqu'un comme Donald Trump, qui réfute l'approche multilatérale ou au moins collective pour préférer le rapport bilatéral, et qui plus est, souvent ce rapport bilatéral, il est plus dans le rapport de force, dans le bras de fer, que dans la concertation. Donc, effectivement, le risque, c'est d'être accaparé par les foucades, les provocations de Donald Trump, ses rapports bilatéraux, ses discussions avec ses congénères sur tel ou tel sujet, avec la France sur les GAFA, avec le Japon sur un accord commercial éventuel, les Britanniques également, etc. Donc ça, c'est une façon, au fond, de dévoyer cette enceinte du G7. Et le défi, c'est de savoir si on a encore quelque chose à se dire en commun dans une enceinte comme celle-là.
Est-ce que l'effet Trump est contagieux? Donald Trump, qui a dit encore ce matin que ce qu'il attendait avec le plus d'impatience, c'était sa rencontre en bilatéral avec Boris Johnson pour parler d'une future coopération post-Brexit. Est-ce que l'effet Trump a fait tache d'huile? Est-ce qu'aujourd'hui, les autres chefs d'État du G7 ont une certaine tentation du chacun pour soi dans ce genre de rendez-vous?
C'est un risque important. La meilleure illustration que j'en vois, peut-être aujourd'hui, c'est le conflit qui est en train de se durcir entre le Japon et la Corée du Sud, qui ont beaucoup d'intérêts en commun par ailleurs, mais entre ces deux pays, aujourd'hui, il y a un conflit mémoriel autour de la façon de gérer, disons, l'héritage de la guerre, cette relation effectivement extrêmement conflictuelle. Il y avait eu un accord international, et je pense que c'est pas complètement anodin le fait que aujourd'hui cette relation bilatérale sont en train de dégénérer. Quand il y a comme ça le pays qui est un peu le leader, enfin qui a été l'architecte de l'ordre international, qui donne l'exemple de la conflictualité, une sorte de brutalité dans les rapports internationaux, bon, qui existe toujours, il ne faut pas être angélique non plus, mais ce risque de tache d'huile, oui, il existe, c'est-à-dire le risque que les autres aussi s'abstiennent d'une certaine discipline, d'une certaine volonté de conciliation multilatérale.
Alors, comme nous n'avions pas pu nous adresser à Aurélie Trouvé en début d'émission, et que la liaison duplex marche à nouveau, je vous salue Aurélie Trouvé, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes économiste et porte-parole d'Attaque et d'Alternative G7. Vous êtes donc en duplex de Bayonne, pas très loin du contre-sommet du G7, du sommet des alternatives qui se tient donc sur la frontière espagnole, et vous en êtes à l'initiative pour partie. À quoi ressemble le vôtre cette année, Aurélie Trouvé, parce qu'il a commencé là, ça y est, ce matin. Vous êtes, oui, quand même au Pays Basque avec une vieille tradition militante, donc vous n'avez pas dû avoir de mal à trouver des participants.
Oui, alors c'est vrai qu'on a, pour nous, il y a vraiment deux mondes qui s'opposent. Il y a celui de ces 7 chefs d'État de pays parmi les plus riches qui sont enfermés dans leur tour d'ivoire, dans l'hôtel du Palais à Biarritz, dans une ville bunkerisée, avec un dispositif policier et militaire impressionnant, ahurissant de notre point de vue, et puis un G7 qui est hors sol, sans concertation avec la population locale. D'ailleurs, il y a un grand rejet d'une grande partie de la population locale de ce G7. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment un contre-G7 ouvert, pluriel, revendicatif, mais surtout ancré dans le territoire, puisqu'on l'a co-construit avec les mouvements sociaux basques. Vous savez que le territoire basque est très riche d'alternatives, et notamment d'alternatives au système imposé par ces 7 chefs d'État. Et donc voilà, nous dénonçons la grande vitrine, en fait, que va constituer ce G7, parce que pour nous, évidemment, ce G7, vous l'avez très bien dit, c'est plus du tout le directoire du monde que ça a pu être, mais c'est une grande vitrine des politiques menées par ces chefs d'État. Nous dénonçons le fait qu'elles aggravent les inégalités, même s'ils osent mettre la lutte contre les inégalités comme objectif. Et puis surtout, nous montrons qu'il y a des mouvements sociaux d'ampleur en France, au Pays Basque et de par le monde qui s'élèvent contre ces politiques-là, et puis que nous portons des alternatives fortes, diverses, et que nous allons discuter d'ailleurs durant tout ce contre G7.
Alors ça aurait été intéressant, Christian Le Ken, que les chefs d'État, qui, en tout cas que les organisateurs du G7 se rapprochent de la population locale, parce que finalement, est-ce que ce n'est pas une des grandes questions qui se posent aujourd'hui, remettre du local dans la mondialisation? J'en profite juste parce que je viens d'entendre Aurélie Trouvé nous expliquer qu'il n'y avait eu vraiment aucun dialogue.
Oui. Oh, je ne pense pas que cela fait partie de leur ADN. Je pense que les chefs d'État et de gouvernement ont envie de se retrouver entre eux dans un exercice qu'on pourrait appeler de diplomatie de connivence.
Et le territoire ne compte pas là.
Non, absolument. Ouais. C'est très intéressant d'ailleurs parce que eux pensent à un global assez déterritorialisé, me semble-t-il, alors que ce que nous venons d'entendre nous ramène immédiatement au local. Et ça, c'est assez caractéristique, je trouve, de débat. C'est-à-dire que quand on parle du global, on revient toujours à un moment ou à un autre à la question du local. Mais à ça s'ajoute aussi, je pense, les questions de sécurité. Je voyais mal le protocole américain accepter des conversations ouvertes avec la population locale. Quand on connaît les règles, les mesures qui sont appliquées en matière de sécurité par les Américains.
Bon, donc de toute façon, c'est toujours à la fin les États-Unis qui gagnent, c'est ça, Sébastien Jean? C'est encore aujourd'hui, alors qu'on est en train d'expliquer combien le monde a changé depuis le début du G7, c'est encore aujourd'hui les États-Unis qui imposent les règles, alors là, en l'occurrence d'organisation, mais les règles aussi de la mondialisation qui sera débattue lors de ce G7.
Oui, les règles ou l'absence de règles. Les relations internationales, c'est un lieu d'interaction, de confrontation aussi, souvent. Et les États-Unis restent la première économie mondiale, la première armée mondiale. Ils ont la monnaie de réserve, enfin la monnaie de référence au niveau international. Donc évidemment, ils sont la référence, le leader. Avant, ils étaient l'architecte d'un système de règles. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont plutôt en train de saper, disons, ce qu'ils avaient construit. Donc, plutôt la puissance déstabilisatrice et qui substitue à ces règles plutôt le désordre et la confrontation bilatérale.
Alors, quand on voit, je cite au hasard plusieurs mesures ou rebondissements de l'actualité récente, la taxe française sur les géants du numérique, adopté le 11 juillet, et la menace par Donald Trump en rétorsion de s'en prendre au vin français, l'interdiction faite aux entreprises américaines de commercer avec Huawei. Peut-être qu'on est dans un début de démondialisation.
Je pense qu'on est surtout potentiellement à un carrefour dans lequel, dans le sens où la forme que prend la mondialisation peut évoluer. Démondialisation, s'il s'agit d'une réduction drastique des interdépendances internationales, honnêtement, pour le moment, je n'y crois pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que la technologie, la capacité à communiquer instantanément d'un bout à l'autre du monde, à se coordonner très facilement, à transporter à moindre coût, elle existe, elle reste là, d'une part. Et d'autre part, même si les États-Unis veulent notamment se déconnecter, se découpler, comme ils disent, de l'économie chinoise, parce qu'il y a, vraiment une concurrence de puissance entre les deux, la volonté de s'isoler ou de limiter les interdépendances internationales n'est pas partagée. Dans le même sens, ce qu'on dit moins, par exemple, c'est que la Chine a baissé très sensiblement sa protection douanière depuis un an et demi. Donc les États-Unis se ferment, mais c'est eux. Donc c'est quelque chose de complexe. Il y a à la fois un refus de continuer à jouer ce rôle de leader et de payer d'une certaine façon le coût de la coordination internationale de la part des États-Unis. Il y a cette concurrence stratégique avec la Chine et le fait que du coup ils veulent, dans ce cadre-là, ils veulent limiter leur dépendance à l'économie chinoise en particulier. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble du monde va drastiquement diminuer son interdépendance économique. Elle peut diminuer un peu, mais drastiquement, je ne crois pas. En tout cas, pour l'instant, je ne crois pas qu'on en soit là.
Aurélie Trouvé, est-ce qu'il vous est arrivé chez Attac de trouver, d'interpréter comme de bons signes, vous qui chez Attac dénoncez depuis longtemps les effets néfastes reste de la mondialisation, comme des bons signes, des mesures plus protectionnistes, disons, par que ce soit les États-Unis, mais tous ceux qui aujourd'hui dans le commerce mondial sont des puissances et qui ont tendance quand même à se refermer ces dernières années.
Ben, d'abord, je voudrais réagir sur Donald Trump, hein, parce qu'il mène surtout une politique au service des plus riches et des multinationales. Il a, par exemple, entrepris une dérégulation financière très, très importante, hein. Donc, il s'inscrit absolument pas dans le projet que nous porte. Et par ailleurs, pour nous, le vrai problème aujourd'hui, il est qu'il n'y a pas de régulation multilatérale démocratique qui permette de s'attaquer aux grands enjeux. Parce que vous disiez, on est ancré dans le local, mais on est aussi profondément altermondialiste. Et en fait, ce qu'on dénonce, c'est le fait que, effectivement, ça a été très bien dit, il y a un développement du bilatéralisme qui est du fait de Trump, mais aussi des Européens. Puisque, par exemple, ils multiplient eux aussi les accords de libre-échange bilatéraux directement entre deux régions du monde et qu'ils ne jouent pas le jeu, qu'ils affaiblissent notamment les Nations Unies qui pourraient être ce cadre, modernisé certes et renforcé, ce cadre multilatéral qui permettrait de traiter les grands enjeux écologiques, économiques et sociaux. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui se craquelle. On a une crise, par exemple, économique argentine, une situation financière qui est très préoccupante, hein, et avec des risques de nouvelles crises financières qui sont pas petits. On a des récessions, ou en tout cas des baisses de croissance assez fortes en Allemagne ou en Chine. On l'a dit, la multiplication de guerres commerciales, des crises géopolitiques très fortes, l'Iran, Hong Kong, etc. On a surtout le grand enjeu de la crise climatique. Comment y répondre, sans compter la question du traitement digne des migrants. Donc tout autant de grandes questions qui ne peuvent être réglées qu'à une échelle internationale mais multilatérale, qui respecte la diversité des peuples, qui inclut les pays du monde. Et c'est vrai que nous... ce qu'on critique, c'est que ces grandes puissances, y compris l'Europe et y compris Emmanuel Macron, hein, affaiblissent l'instance des Nations Unies qui pourrait justement porter ces grands enjeux à condition qu'elles soient renforcées et démocratisées.
D'où la question, Christian Lequesne, à quoi bon le G7 puisque il n'a jamais marché comme une instance de régulation. À ma connaissance, en 2007-2008, il n'a pas précisément alerté sur ce risque de crise financière qui arrivait et qui allait agir comme un...
Si vous voulez, le problème est un problème plus large. Il n'y a pas de régulation mondiale, tout simplement parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Je veux dire, si on voulait avoir une régulation mondiale, il faudrait qu'on ait véritablement des instances de gouvernement ou de gouvernance, et elle n'existe pas. Pour l'instant, la régulation, c'est le monopole des États, et c'est ce qui confère d'ailleurs aux États une forme de pouvoir par rapport aux agents économiques. Ils ont le pouvoir de réguler. Je pense que le G7, à partir de là, c'est une instance dans laquelle on peut se coordonner, on a parlé tout à l'heure de coordination, et où on peut faire du déclaratoire. Ça sert à ça, et après tout, le déclaratoire, ça compte en diplomatie.
Mais il n'y aura plus de déclaratoire, il n'y aura plus de communiqué final.
Voilà, alors là, c'est un peu, effectivement, l'ironie, hein, c'est que le déclaratoire sera vraiment réduit à très peu de choses, puisque on part du principe, à l'avance, qu'il n'y aura pas de communiqué final. J'ai trouvé un peu bizarre.
Communiqué qui avait la prétention quand même d'influencer l'opinion économique mondiale des marchés, Sébastien Jean. Un G7 sans communiqué final, est-ce encore un G7?
Oui, moi je pense que c'est, en l'occurrence, c'est plutôt une façon assez pragmatique de se débarrasser de ce poids du communiqué final, dont on a vu qu'il avait été très contre-productif l'an dernier, c'est-à-dire que finalement, vu le climat un peu délétère qu'il y a dans les discussions, si c'est pour passer des heures à se mettre d'accord sur un communiqué dont on a extrait tous les éléments un peu intéressants, parce que c'était le seul point de consensus, c'était une sorte de d'eau tiède.
Mais c'est ce qui se passe à chaque fois, non?
Pas forcément. Alors moi, je crois que sur le G7, G7-G8, il faut distinguer avant la crise et après la crise. C'est-à-dire que jusqu'à la crise, le G7 a été, économiquement, à l'origine de concertations très importantes et très influentes. J'en cite trois en particulier. L'accord du Louvre, 1985, pour faire face à la hausse du dollar. L'accord du Plaza, en 1987, pour au contraire limiter la chute du dollar. Et 2008, justement, novembre 2008, 2008, la déclaration octobre, 2008, au moment de la crise financière, déclaration du G8, des ministres des Finances, d'une façon concertée, disant nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour relancer les marchés financiers et pour gérer cette crise. Dans ce dernier exemple, c'était une façon très importante de calmer la panique des marchés financiers en disant, voilà, on est tous d'accord, on va tous s'y mettre et ensemble on va y arriver. Ce que pouvait beaucoup plus difficilement faire un pays isolé parce qu'il y a une interconnexion des systèmes financiers trop importante. Maintenant, pourquoi je dis il faut distinguer avant la crise et après? Parce que ce qu'on a vu aussi en 2008-2009, c'est que le G7, justement, c'était devenu trop réduit. Si on voulait gérer la coordination macroéconomique mondiale, il fallait élargir le cercle, d'où le G20. Donc aujourd'hui, ce qui compte pour se coordonner en termes de politique macroéconomique, c'est le G20. Le G7, on doit définir sa pertinence en complément, par différence si vous voulez. Ce que les démocraties riches peuvent discuter entre elles, qui donc dans un cercle plus limité, où il est plus facile de trouver un accord, et sur leur point commun, disons, quels sont-ils aujourd'hui? La finance, parce que l'essentiel, enfin les systèmes financiers, disons, sont différents dans les pays riches de ce qu'ils sont dans les pays émergents, l'aide au développement, en particulier, des problèmes liés au fonctionnement de la démocratie, puis après un certain nombre d'autres problèmes qu'on identifie, qui seraient pas utilement traités dans le G20, en fait, enfin, ou pas de la même façon.
Alors, Aurélie Trouvé, est-ce que ça veut dire que lorsque le G7 décide cette année, et notamment Emmanuel Macron se targue d'en être à l'initiative, d'un sommet nouveau format, en invitant d'autres pays, notamment d'Afrique, Afrique du Sud, Sénégal, Rwanda, Burkina Faso, il y aura aussi l'Inde, l'Australie, le Chili et l'Espagne, quelle place ces pays-là vont avoir dans les discussions? Est-ce qu'ils viennent en spectateurs de ce qui sera dit? Est-ce qu'ils vont avoir leur mot à dire? Est-ce que finalement, vous, chez ATTAC, vous trouvez quand même que c'est intéressant d'ouvrir cette enceinte à ces pays?
Non, on considère le G7 comme illégitime, tout comme le G20, parce que dans le même temps, c'est une façon d'affaiblir, je vous l'ai dit, un cadre multilatéral qui inclut la presque totalité des pays du monde, et qui soit fondée sur des valeurs fortes, et en l'occurrence les Nations Unies, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la Charte des Nations Unies, ce sont les conventions de l'Organisation internationale du travail, ce sont les accords climat, sur le climat, etc. Donc nous, c'est ce cadre-là qui nous semble, en tout cas un cadre multilatéral fondé sur la solidarité et sur la réponse à l'urgence écologique. Et bon, il a été dit, bon, finalement, ce sont les États qui sont voilà, il n'y a pas de gouvernement mondial, mais il faut bien voir quand même que il y a une forme de mondialisation et de gouvernement mondial qui a été multilatéral, qui est l'Organisation mondiale du commerce, qui a été très importante pendant qui était le GATT avant, qui est devenu l'OMC, qui est aujourd'hui en panne, mais qui pendant 30-40 ans a été quand même très importante, aujourd'hui qui se transforme en accord de libre-échange bilatéraux, on est passé du multilatéralisme au bilatéralisme néolibéral. Et ce que nous, on dénonce, c'est à la fois ce multilatéralisme ou ce bilatéralisme qui met en avant le droit de la concurrence, le droit du commerce, avant les droits sociaux et la réponse à l'urgence écologique. Et donc, il nous semble qu'il faut une instance multilatérale qui renverse la priorité et qui voilà, et aujourd'hui il y a un problème, c'est-à-dire que en gros le droit commercial, le droit de la concurrence est contraignant, puisque dans ces instances, les accords de libre-échange et l'OMC, il y a des instances, des organes qui permettent d'imposer le droit commercial. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne les droits sociaux et surtout la question climatique, regardez l'accord de Paris, il n'y a pas de pouvoir de sanction, de pouvoir contraignant, en tout cas de qui permettent de faire appliquer réellement les engagements. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, oui, les pays du G7 qui se targuent à chaque fois de grands engagements, eh bien, par exemple, ne respectent pas en fait l'accord de Paris dans lequel ils se sont engagés dans le cadre des Nations Unies.
Or, la question de la transition écologique va être au cœur des chantiers du G7, et c'est vrai que ce soit donc pour la question climatique, mais aussi la question tout simplement, par exemple, de la question des rapports femmes-hommes qui seront aussi évoqués dans le G7, avec notamment un président américain qui est accusé par au moins 40 personnes de les avoir harcelées, ou qui a par ailleurs pendant sa campagne au début du mouvement MeToo, soutenu des personnes accusées, des hommes accusés. Bon, voilà, c'est vrai qu'on est sur des gros dossiers, quand même très importants pour la marche du monde, avec des personnes qui, des chefs d'État, puisque ce sont eux qui incarnent ces pays, qui sont pas tellement en cohérence avec ce qu'ils annoncent.
Alors ça, ce que ce que vous dites là, c'est un point important, puisque tout à l'heure, très justement, Sébastien Jean disait une des caractéristiques des démocraties faisant partie du G7, c'est un certain rapport à la finance, un certain rapport à l'aide publique au développement et à la démocratie. Et ce troisième pilier était très important en termes d'image, et ce pilier est en train d'être remis en cause. Il est en train d'être remis en cause tout simplement parce que au sein même des pays membres du G7, il y a une crise de la démocratie, il y a des leaders populistes qui sont élus et qui justement éloignent le G7 de cette image d'instance feutrée, experte,
modérée. Qui va représenter l'Italie d'ailleurs, est-ce qu'on le sait depuis la démission de Giuseppe Conte? C'est lui qui vient quand même,
oui,
malgré sa démission.
Il expédie les affaires courantes, bien qu'il ait démissionné avant-hier. Et je crois que ça c'est un point important, vu du Sud, si vous voulez, le message consistant à dire le G7, ce sont les pays qui incarnent la démocratie. Aujourd'hui, c'est un message qui est quand même beaucoup moins légitime qu'il ne l'était dans les années 70.
Sébastien Jean.
Oui, bon, je crois que il faut quand même partir de la réalité des relations internationales, c'est que les États souverains, comme leur nom l'indique, sont souverains. Et ils ne se laissent, et aucune organisation internationale ne leur impose quoi que ce soit. L'Organisation mondiale du commerce, pour reprendre l'exemple qui était cité, c'est une organisation qui est chargée d'appliquer les traités que les États ont signés entre eux, qu'ils n'appliquent d'ailleurs que dans la mesure où ils veulent bien les appliquer. Donald Trump nous en fournit une illustration assez probante. Donc, la réalité, c'est que le leadership international, on doit le déplorer, je suis tout à fait d'accord, mais la réalité, c'est celle-là. Le leadership international, il est le fait des États. Et donc, ici, on a un exercice dans lequel il y a une tentative, en tout cas une instance de concertation, de coordination entre des leaders politiques. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment un sous-ensemble, on l'a dit, de pays, puisque c'est démocratie riche. Et donc, ce qui peut faire d'utile, c'est d'affirmer de façon coordonnée un leadership politique, une direction politique. Je crois que c'est là qu'ils sont vraiment utiles. Après, ce qu'ils peuvent faire, de toute façon, je pense que le dialogue entre eux, a priori, est nécessaire. On est trop interdépendants les uns des autres, et notamment pour les problèmes qui viennent d'être cités, les problèmes climatiques, par exemple, pour se payer le luxe de ne pas se parler, de ne pas essayer de mieux se comprendre.
Voilà. Et si c'était juste par téléphone, ce serait bilatéral de toute façon, non?
Oui, mais ça ne, je veux dire, je crois que le contact, enfin le dialogue et en présence les uns des autres n'est pas remplacé par des coups de téléphone.
Voilà, le dialogue.
Il y a besoin aussi de créer une sorte de confiance, il y a un facteur humain.
Le dialogue, mais pour en arriver où? Est-ce qu'on n'a jamais vu de grandes décisions politiques contraignantes émerger de l'une de ces réunions à 7 qui furent aussi à 8 ou à 6? Est-ce que des décisions politiques fortes ont été prises à l'issue de l'un des derniers G7, Christian Lequesne?
Écoutez, décision.
Et suivi des faits, je veux dire.
Décision politique forte, je pense quand même à l'exclusion de la Russie, après le.
Mais qui sera
si
peut-être
voulez,
réintégrée.
Crimée, après donc l'invasion russe en Crimée au mois de mars 2014. Ça a été quand même une décision forte, au
oui,
point
mais...
d'ailleurs. Que aujourd'hui la Russie n'en fait pas partie, qu'il y a un débat. Monsieur Trump commence à dire de façon très ouverte qu'il faudrait réintégrer la Russie, et il n'est pas le seul. Le Premier ministre japonais, Monsieur Abe, l'a dit également. Il a précisé, lui, que c'était parce qu'on avait besoin de la Russie pour régler les problèmes du Moyen-Orient.
Et voilà. Emmanuel Macron semble s'interroger, l'ayant reçu au Fort Brégançon lundi.
Oui, mais vous ne trouverez pas de déclaration des Emmanuel Macron disant explicitement qu'il faut réintégrer la Russie dans le G7 pour en faire un G8. Donc voilà, mais encore une fois, j'ai le sentiment qu'on attend du G7 ce qu'il est incapable de délivrer, c'est-à-dire des décisions. Le G7, c'est une instance d'abord de concertation et de socialisation, ce qui a été dit tout à l'heure sur les contacts personnels, etc., est très important, et pas seulement entre les chefs d'État et de gouvernement, mais aussi entre leurs conseillers. Il y a une forme d'institutionnalisation aujourd'hui du travail des conseillers qu'on appelle les Sherpas, qui se voient en amont du G7 et qui ensuite se contactent en aval. Et ça leur permet, lorsqu'il y a un problème de conflit, de s'appeler directement, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est ça la fonction du G7, plus le fait de faire des déclarations sur ce que l'on pense être, disons, les bonnes politiques pour le moment. C'est toujours assez court terme, le G7. Ça porte quand même beaucoup sur le commentaire de l'actualité.
Alors Aurélie Trouvé, si le G7 est, allez, non pas une coquille vide, mais en tout cas un endroit où on ne peut pas prendre de grandes décisions contraignantes parce que ce n'est pas le lieu, alors un contre-G7, c'est se battre contre des moulins à vent.
Non, mais d'abord, le G7, effectivement, nous n'en attendons rien puisqu'on le considère comme illégitime. Mais je vous l'ai dit, on pense que c'est une manière d'affaiblir un peu plus des instances multilatérales, démocratiques, fondées sur les droits sociaux et la réponse à l'urgence écologique.
Mais en l'occurrence, Aurélie Trouvé, est-ce que vous pouvez être contre
du monde par ailleurs?
Est-ce que vous pouvez être contre, par exemple, les grandes priorités? Attendez, Aurélie Trouvé, s'il vous plaît. Aurélie
Trouvé. Les États, bah, évidemment, régulation internationale. Et qu'il faut un dialogue entre eux, oui, mais quelle forme de dialogue? Et ce dialogue, bah, nous pensons qu'il faut qu'il ait lieu dans un cadre, dans ce cadre multilatéral dont je vous ai parlé. Je vais vous donner un exemple très concret de l'affaiblissement de ce type de cadre. Vous savez, vous avez des négociations actuellement pour un traité contraignant sur les multinationales dans le cadre des Nations Unies, avec l'idée que les populations du monde pourraient avoir accès à une justice internationale quand les multinationales violent leurs droits ou créent des désastres écologiques. Ce traité contraignant sur les multinationales qui est négocié depuis en fait plusieurs dizaines d'années aux Nations Unies, dans les Nations Unies, eh bien l'Union européenne est en train de se retirer des négociations. Donc on parle beaucoup de Trump, OK, mais l'Union européenne elle-même est en train d'affaiblir ce type de cadre. Et précisément ce que nous dénonçons, pourquoi nous faisons ce contre G7, c'est pour dénoncer ces politiques qui vont être dont on va vanter les grands mérites, parce que pour nous le G7 effectivement, il est plus tellement un directoire du monde, mais il va être une grande vitrine des politiques qui sont menées par ces 7 chefs d'État pour montrer que leur politique qui est au service des plus riches et des multinationales serait génial pour la planète.
Alors, Sébastien
Donc nous,
Jean.
Précisément, on est là pour dénoncer les dégâts de ces politiques-là, pour demander une autre forme de régulation multilatérale, internationale, et pour montrer qu'il y a des alternatives et des mouvements sociaux à tout ça.
Alors Sébastien Jean, c'est vrai que si d'un côté l'Union européenne se retire de discussions onusiennes pour contraindre les multinationales, et que d'un autre côté la France et certains pays européens participent à ce G7 en disant que l'enjeu prioritaire cette année, c'est la lutte contre les inégalités, quand par ailleurs les dividendes versés par les multinationales au deuxième trimestre ont atteint un montant record de 513 milliards de dollars. Bon, c'est vrai que là encore, on est dans une sorte de contradiction qui est assez difficile à tenir pour une ouverture de G7 pleine de bonne volonté, pleine de bons sentiments.
Moi, je n'oppose pas du tout l'ONU avec le G7. Pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir.
Pourquoi ?
L'ONU, c'est essentiellement une organisation de coordination internationale sur des questions principalement, de maintien de paix, mais également de défis globaux, qui a ses qualités parce que elle a ce côté représentation universelle, mais qui n'est pas équipée pour faire de la coordination internationale sur des questions économiques, par exemple. C'est-à-dire, il faut se préoccuper d'efficacité. Qu'a fait l'ONU en la matière depuis sa création ? Rien, mais parce qu'elle n'est pas équipée. Et donc, justement, quand on dit négocier depuis plusieurs décennies, bah, c'est bien parce que c'est pas adapté comme cadre de négociation. On sait bien que si on veut, avoir un dialogue un peu efficace sur des questions épineuses, il faut avoir un groupe de taille limitée. On n'arrive pas à un accord entre 200 pays à l'unanimité. Ça n'est pas vrai. Je dis pas que c'est pas regrettable, effectivement, hein, mais ça ne marche pas. Donc il faut un peu de réalisme, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi que le leadership politique s'exprime. Et le leadership politique peut s'exprimer dans le cadre du G20, et sur certains sujets particuliers qui concernent les pays riches, pourquoi pas dans le cadre du G7, je veux dire, moi je n'y vois pas de contradiction.
Alors vous n'aviez pas l'air d'être tellement pour un G8, en tout cas que la Russie réintègre, en tout cas vous, Christian Lequen, je sais pas, est-ce que vous avez une position là-dessus, que la Russie réintègre le G7, donc devenant le G8 ou redevenant le G8, mais est-ce qu'on peut se passer de la Chine dans ce G7? On parle de puissance économique, on parle de pays industriels ou industrialisés. Est-ce que déjà cette appellation pour qualifier les pays du G7 est encore d'actualité? Et est-ce qu'on peut faire sans la Chine aujourd'hui dans un G7, Christian Lequen?
Ça nous ramène à la discussion sur G7, G20. Je pense que effectivement, l'instance qui aujourd'hui est représentative des rapports de force dans le système international contemporain, c'est beaucoup plus le G20 que le G7. Et à terme, je pense qu'on devra se poser la question de savoir si le G7 doit continuer à se réunir. Il me semble que le G20 effectivement représente aujourd'hui beaucoup plus la réalité du pouvoir dans le monde. Alors après, on peut être contre, comme notre collègue, ce type de réunion. Mais si on parle de représentativité du système international, il va de soi que ne pas avoir l'Inde, ne pas avoir la Chine, ne pas avoir le Brésil, ne pas avoir l'Afrique du Sud, ça pose aujourd'hui un grand problème. C'est un peu le G7 est quelque part politiquement le reflet un peu d'un monde d'hier.
Un monde suranné, une image surannée. Sébastien Jean, est-ce qu'il y a des sujets qui ne sont discutés qu'au G7? La question de l'aide au développement, est-ce que c'est une question exclusivement...
Exclusivement, je dirais pas ça, mais principalement, disons. Hein, ça n'empêche pas que ce soit discuté dans d'autres enceintes, mais l'OCDE, éventuellement dans certains cas même au G20. Mais là, il y a un périmètre relativement petit où un consensus va être plus facile à trouver. Ça n'empêche pas qu'ensuite ça puisse trouver un réceptacle ailleurs, de même que l'impulsion de ce leadership politique au G7 ou au G20 peut trouver un réceptacle dans des négociations plus larges, y compris s'agissant du climat, par exemple, dans le cadre onusien, pour le coup. Il peut y avoir une complémentarité. Et donc là, ça peut être un lieu d'initiative sur cette question en particulier de l'aide au développement, effectivement, parce que les membres du G7 sont à l'origine de 75% de l'aide au niveau international aujourd'hui.
Aurélie Trouvé, sur la question de l'aide publique au développement, qui reste quand même une prérogative de chaque État. Il faut une coordination, mais c'est une prérogative de chaque État.
Tout à fait. Je voudrais juste déjà réagir sur le caractère suranné hein, qui a été évoqué du G7. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, je pense que ça reste une arme de séduction massive, le G7, pour imposer idéologiquement un capitalisme de plus en plus brutal. Et ça va faire le lien aussi avec la question de l'aide publique au développement, mais plus globalement des engagements de ce G7 et des G5, G6, G7, G8 depuis 1975, parce que en fait, ils ont pris tout un tas de grands engagements, mettre fin à la pauvreté, assurer donc l'aide publique au développement, etc., assurer la sécurité alimentaire, réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et bien en fait, nous ce qu'on dénonce, c'est que les politiques menées par ces 7 chefs d'État en fait vont à l'inverse des engagements qui, par ailleurs, n'ont jamais été atteints, bien au contraire. Hein, et par exemple, le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, et ben vous savez qu'il est reparti à la hausse, que les inégalités augmentent dans presque tous les pays depuis une quarantaine d'années, dont les pays du G7. Que, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse également dans le monde, notamment dans les pays du G7, quand il faudrait les réduire drastiquement pour espérer contenir le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. Donc, vous voyez, c'est autant d'engagements, c'est une grande vitrine, les G5, G6, G7, G8, pour en fait vendre des politiques qui vont à l'inverse des engagements qui sont pris et affichés dans le cadre de ce grand sommet.
Si ce sont des vitrines, Christian Lequen, que nous dit l'évolution des sujets traités au G7? Peut-être que simplement c'est ça qu'il faut lire, c'est reprendre les G7 et G8 depuis 20 ans et voir à chaque fois ce qui a été traité et ce que ça nous dit de l'évolution du monde.
Oui, je pense qu'il y a 30 ans, on parlait beaucoup des questions monétaires. Hein. Vous l'avez très bien dit, Sébastien Jean, en évoquant les accords du Louvre 1985. Aujourd'hui, on parle plus de régulation des marchés, ça me paraît normal. Et puis à ça s'ajoutent les questions, bien sûr, d'environnement, développement durable. Enfin bref, tous les thèmes, si vous voulez, qui sont aujourd'hui à l'agenda international et sur lesquels les diplomaties sont obligées de travailler. Mais tout à l'heure, on parlait du G7 comme une arme de séduction massive. Évidemment que c'est un exercice de séduction, mais en règle générale, la diplomatie est un exercice de séduction.
Donc pour vous, c'est un exercice de diplomatie, le G7,
sûr,
tout simplement.
Bien sûr, bien sûr. Et l'aspect vitrine est très important. Maintenant, en tant que citoyen, on peut légitimement se poser la question, est-ce que nous avons encore les moyens collectivement de dépenser autant d'argent pour une vitrine, voilà. Et
alors très peu cette année par rapport aux années précédentes, si j'ai bien compris.
Ça coûte moins cher, mais enfin
pourquoi
on a quand même...
ça coûte moins cher? Pourquoi ouais, je sais pas, 24 a... millions, je crois, 24
dû,
milliards.
Je ne sais pas. On a dû penser au coût. Ça, je n'ai pas le, je n'ai pas le détail, mais enfin il y a quand même 13 200, je crois, agents de la sécurité, policiers, gendarmes qui sont engagés. Ça a un certain coût pour les finances publiques. Donc ça, c'est une question légitime qu'on doit se poser en tant que citoyen, bien sûr.
Sébastien Jean, il y a des think tanks du G7. Mais alors, qu'est-ce que c'est donc auquel vous participez?
Pas exactement. Plus exactement, il y a des groupes d'engagement en marge du G7, c'est-à-dire que les leaders politiques du G7, les gouvernements sollicitent des inputs, enfin des suggestions d'un certain nombre de groupes et ces thématiques. Et donc, on sollicite des think tanks sur leurs suggestions sur les questions commerciales, les questions de démocratie, les questions de développement, par exemple. On va également avoir des groupes autour de l'égalité femmes-hommes, autour des questions scientifiques.
Et vous participez à l'un de ces groupes?
Nous, on a effectivement participé au groupe d'engagement des think tanks en marge du G7. Bon, c'est une façon d'essayer de d'alimenter la réflexion des gouvernements sur des directions qui pourraient être prises.
Avec des propositions, par exemple, concrètes,
avec des suggestions, par exemple, en l'occurrence, sur les questions commerciales sur lesquelles on était amené à intervenir d'éviter qu'il y ait une déstabilisation générale des relations commerciales comme c'est le cas.
Aurélie Trouvé, la société civile, comme on dit, est amenée de plus en plus, en tout cas elle prend l'initiative de le faire, de prendre la relève d'États défaillants, disent-elles. Chez ATTAC, quel projet nouveau vous proposez quand vous voyez que du côté du G7, on a le désir de réinventer le capitalisme? C'est une expression qu'on entend souvent. Est-ce que vous ne devez pas vous aussi réinventer l'opposition au capitalisme pour que ça marche?
Écoutez, j'espère en tout cas qu'on est en train de le faire au contre G7, hein, parce que d'abord on va avoir 3 jours de conférences débats, d'une centaine de conférences débats, plus de 200 intervenants. Il y a vraiment les luttes, les résistances, les organisations qui ont marqué cette année et les années précédentes, avec des luttes très fortes contre un capitalisme financier qu'on juge de plus en plus brutal et de plus en plus inégalitaire, qui ravage par ailleurs l'environnement. Mais on a aussi réussi, on va faire une grande manifestation, il va y avoir des actions de désobéissance civile avec une très grande diversité de mouvements et, comme je le disais, à la fois basques, français, internationaux, et ça c'était très important pour nous. Et oui, je pense que c'est dans ces moments-là qu'on tente en tout cas de proposer des alternatives, de réinventer aussi une certaine forme de politique. Et en tout cas, je leur dis, comme on dit au Pays Basque, Ongi et Tori, nous, en tout cas, on veut faire un contre-sommet le plus ouvert possible, à l'inverse de ce G7 qui est en train, qui va se dérouler à Biarritz.
Bon, Christian Lequen, pour conclure, on citait Simenon en début d'émission, on peut citer Cocteau pour la terminer, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. C'est ça le résumé du G7?
Oui, enfin, il y a des organisateurs quand même, hein, pour le G7. Il est
mais le mystère en question, c'est la mondialisation, c'est les grands mouvements de ce monde.
Mais voilà, cette mondialisation, ces grands mouvements amènent nos chefs d'État et de gouvernement à devoir en parler et à devoir rassurer en faisant des déclarations. C'est ça qui est important. Hein. Pour moi, c'est un exercice vraiment de diplomatie pure. Un exercice de séduction, on essaie de rassurer, c'est cela finalement le G7, et on essaie de créer du réseau entre soi, bien entendu.
Voilà, et de rassurer donc des populations qui pour beaucoup n'ont pas forcément grand chose à faire de ce non-communiqué final, mais des déclarations qui seront faites à l'issue du G7,
Je suis pas sûr qu'on rassure énormément les populations.
Merci en tout cas à vous trois d'être venus en débattre ce soir, Sébastien Jean, Christian Lequen, ainsi que vous, Aurélie Trouvé, qui est en liaison duplex. Merci beaucoup, ainsi qu'à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Stéphanie Villeneuve, Aliette Ovine, Léa Capuano, Roxane Poulain et Valentin Berg. Cette émission a été réalisée par Alexandra Candy-Longuet, avec à la prise de son Laurie Vachon et l'équipe technique de France Bleu Pays Basque, que je remercie.